Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 avril. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, tracté pour convaincre les militants en campagne, nous suivrons des marcheurs à Créteil, alors qu'une manifestation contre l'extrême droite se prépare samedi. On voit ça après les autres titres, Anaïs.
Marioupol détruite à 90%, dernière résistance ukrainienne. Dans ce journal, le témoignage d'un officier du régiment Azov dans la ville assiégée. Les doutes des parties civiles sur la sincérité de Salah Abdeslam après ses révélations hier. Enfin, un phénomène de mirage pourrait-il expliquer le naufrage du Titanic alors que la météo était parfaite? Étonnante enquête des météorologues français, on vous raconte à la fin du journal.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, si elle est élue, elle veut un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Elle veut mettre fin au programme d'armement commun avec l'Allemagne. Elle réserve d'ailleurs à l'Allemagne des mots très durs. Bref, les relations internationales sous Marine Le Pen changeront drastiquement. Elle l'assume. On en parle avec Franck Alizio, son porte-parole, à 7h50.
A tout à l'heure, Léa. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le politologue et chercheur associé au CEVIPOF, Jérôme Jaffré, et l'éditorialiste politique du quotidien Le Monde, Françoise Fraissos. Vos questions, participez à ce débat au 01 45 24 7000. Le standard d'Inter est ouvert et vous attend.
France Inter. Une campagne tambour battant. À 10 jours du second tour de la présidentielle, il faut mobiliser les troupes, convaincre les indécis et les 13 millions d'électeurs qui se sont abstenus dimanche dernier. Alors, les militants, La République En Marche, retournent sur le terrain. Steven Goyer les a suivis dans les quartiers populaires à Créteil, ville qui a voté à 40% pour Jean-Luc Mélenchon et dont les électeurs sont particulièrement courtisés.
Nous sommes dans le quartier du Montmélis.
On vient dans ce quartier-là parce que c'est des bureaux de vote qui ont fait entre 48 et 58 de vote Jean-Luc Mélenchon.
Mehmet Selan, référent La République En Marche dans le Val-de-Marne, fait partie de l'équipe chargée du porte-à-porte.
Bonsoir monsieur, désolé pour le rangement.
La question des retraites s'invite rapidement dans les débats.
Apparemment, c'est à partir de 65 ans et 60.
Quelques programmes déposés sur les paillassons, d'autres données en main propre.
Deuxième tour, Macron part complètement par dépit.
Peut-être qu'en lisant
mais
ça.
Mais je le ferai par dépit, mais.
Peut-être qu'en lisant ça, ce ne sera pas par dépit.
Non, je vous assure que ce sera par dépit. Ah, j'en suis certaine.
Sur quel point?
Ce sera un vote à reculons pour cette électrice de Fabien Roussel au premier tour. Pas de quoi décourager Clément.
On va devoir convaincre, parce que nous, on ne suffit pas à dire, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Nous, on veut convaincre. Donc du coup, on veut montrer aussi que Macron, il fait beaucoup aussi pour la gauche.
Convaincre et tenter de comprendre, explique le député de la deuxième circonscription du Val-de-Marne, Jean-François Mbaye.
Il y a besoin d'aller chercher cet électorat-là, il y a besoin d'aller convaincre. C'est d'aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui a motivé des quartiers comme ça à faire du vote mélenchoniste. Est-ce que c'est uniquement par dégoût? Et l'objectif pour nous, c'est de dire, répondons collectivement à une seule question. Quelle est la perspective de société que nous voulons?
Et la tâche ne fait que commencer. Dans le Val-de-Marne, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour avec près de 33% des bulletins exprimés.
À Avignon aussi, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête. C'est là que Marine Le Pen sera en meeting ce soir. Hier, elle a expliqué que son premier acte vis-à-vis de l'Algérie, si elle était élue, serait de n'accorder des visas que si l'Algérie reprenait ses ressortissants indésirables en France, indésirables même sans condamnation pénale. Dans cette deuxième phase de la campagne qui voit s'affronter deux styles différents, deux projets radicalement opposés. Une marche contre l'extrême droite est organisée samedi à Paris par la Ligue des droits de l'homme, selon les informations de France Inter. La LDH va l'annoncer ce matin. Et alors qu'Emmanuel Macron est au Havre aujourd'hui pour y défendre les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes, que Marine Le Pen veut au contraire démanteler, eh bien les défenseurs du climat seront bien présents, eux aussi, samedi, dans la manifestation parisienne. Célia Kiré.
Le discours de Greenpeace, par exemple, est très clair. Jean-François Julliard, son directeur, estime que le premier tour est une défaite pour le climat, mais il ne parle pas d'abstention, il appelle à refuser l'extrême droite. Il sera dans la rue samedi.
On a de quoi frémir, parce que si avec Emmanuel Macron, on n'a pas avancé sur le climat, on craint le pire avec Marine Le Pen au pouvoir. On a le sentiment qu'elle ne maîtrise pas déjà l'enjeu climatique, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne partage pas l'urgence climatique, qu'elle passe son temps à apporter des fausses solutions comme celle la plus caricaturale, mais c'est une mesure qu'elle pousse beaucoup, c'est le démontage des éoliennes. C'est un programme de déni de l'intensité et de l'accélération de la crise climatique.
Les ONG espèrent d'ailleurs de nouvelles annonces du candidat Macron pour renforcer son programme pour le climat. Gabriel Mazzolini, des Amis de la Terre, voit même encore plus loin.
C'est pas maintenant qu'il faut se démoraliser. La mobilisation contre l'extrême droite, elle est nécessaire dans la perspective des législatives. C'est le moyen terme qui nous intéresse. Nous, on va appeler à voter climat aussi aux législatives et justice sociale. Il faut absolument qu'on évite de se retrouver après les législatives dans la même situation dans laquelle on s'est retrouvé pendant le quinquennat précédent.
Ces ONG disent avoir reçu depuis dimanche des milliers d'appels de jeunes qui veulent s'engager pour le climat. Ils auront l'occasion de manifester samedi avant deux autres marches, le 26 avril et le 1er mai.
France Inter, il est 7h05, le navire amiral de la flotte russe touché en mer Noire.
Le croiseur Moskva, 16 lanceurs de missiles, des armes anti-sous-marins et anti-aériennes, est gravement endommagé par une explosion de munitions suite à un incendie. L'information est confirmée par le ministère de la Défense russe. À Mariupol, assiégé et bombardé, les soldats ukrainiens se sont retranchés dans les kilomètres de souterrain du port et de l'immense zone industrielle. Des unités ont réussi à rejoindre le régiment Azov, un bataillon composé de héros pour les uns ou véritables milices néo-nazis pour les autres. C'est en tout cas l'un de ces officiers que nos envoyés spéciaux en Ukraine, Omar Waman et Gilles Gallinaro, ont réussi à joindre.
Les combats sont acharnés. C'est une guérilla urbaine. Ce sont des combats de rue. Il n'y a pas vraiment de ligne de front.
Ilya Samoylenko est un officier du régiment Azov à la tête d'une unité encerclée par les forces russes.
Nous combattons sans le soutien de l'artillerie, sans le soutien aérien, sans approvisionnement depuis plus d'un mois et demi. Mais nous nous battrons jusqu'à la fin.
Des combats qui se déroulent dans une ville de Mariupol en grande partie dévastée.
Ils utilisent des avions qui bombardent de façon indiscriminée, des bombes qui tombent sur des habitations, sur des civils, sur des hôpitaux, des théâtres. En fait, ils rasent la ville, quartier par quartier.
Bientôt à court de munitions, Ilya Samoylenko décrit une situation désespérée, un enfer pour les civils piégés au milieu des combats et privés de tout.
Nous avons des réserves d'eau et de nourriture, mais elles sont limitées. Et ce qui fait mal, c'est que les civils, eux, n'ont pas de réserve. Ils souffrent de famine. Les gens sont en train de mourir dans la rue.
La chute inévitable de Mariupol devrait accélérer la deuxième phase de l'offensive russe, dont l'objectif est l'annexion de la région du Donbass. Kramatorsk, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et cette nuit, les Américains ont décidé d'une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Il y aura des blindés et des hélicoptères. Un paysage désolé et des centaines de morts, inondations meurtrières en Afrique du Sud. Des pluies les plus importantes depuis 60 ans se sont abattues depuis le week-end dernier dans la région de Durban. Plus de 300 morts, des ponts, des routes, des maisons détruites. Et puis l'homme suspecté d'avoir tiré dans le métro new-yorkais sera présenté aujourd'hui à la justice pour attaque terroriste. Il a été arrêté hier soir.
Il est 7h08. Que penser des révélations de Salah Abdeslam hier au procès des attentats du 13 novembre?
Pour la première fois, le principal accusé a expliqué qu'il était entré dans un café avec sa ceinture explosive, puis qu'il avait renoncé par humanité et pas par peur, qu'il avait désactivé le gilet avant de l'abandonner. Jusqu'à présent, Salah Abdeslam avait pourtant raconté à des proches que la ceinture explosive n'avait pas fonctionné. Pendant près de deux heures, le seul survivant des commandos a donc livré un récit inédit des faits que les parties civiles ont du mal à croire entièrement, comme l'explique Maître Gérard Chemla.
Il a dit des choses, clairement, il a parlé. Mais on doit noter que, pour la première fois, on a un vrai dialogue avec Salah Abdeslam. Est-ce qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire? Nous le verrons. Mais il faut apprécier ce changement de pied et ce changement d'attitude. Il reste des questions. La panne de la Clio, je suis sceptique. Sur la notion du renoncement, ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Rappelons-nous qu'il revient, après nous avoir expliqué qu'il renonçait par humanité, il revient où? Il revient dans la cellule terroriste et il va y séjourner pendant de nombreux mois sans marquer de recul par rapport à son adhésion. Oui, j'ai un certain scepticisme.
L'audience a été suspendue hier. L'interrogatoire de Salah Abdeslam reprend cet après-midi. La rémunération du patron de Stellantis, Carlos Tavares, au moins 19 millions d'euros, a du mal à passer auprès des actionnaires. Une majorité, y compris le représentant de l'État français, a voté contre hier lors de l'Assemblée générale. Vote uniquement consultatif. Chasser l'angoisse de l'examen médical, pas facile, surtout quand on est un enfant et qu'on est atteint d'un cancer. 1700 en déclarent tous les ans en France. Alors pour dédramatiser la chimiothérapie, l'association PharmaVie vient de mettre en place à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif un mini-hôpital, l'hôpital de mon doudou, pour faire semblant de faire passer les examens à un nounours, une première dans un service d'oncologie pédiatrique à Norenstein.
C'est un ours en peluche presque banal, si ce n'est sa cape et son masque de super-héros. Tout doudou est entre les mains expertes du docteur Louise, 9 ans, qui attend sa propre radiothérapie.
On le positionne et on met le masque. On demande si c'est pas trop serré, parce que quand c'est trop serré, ça va pas. Et maintenant, c'est prêt pour tout doudou.
La maman de Louise, Marie, est formelle. La petite fille supporte beaucoup mieux les séances depuis que l'ours lui a été offert.
Elle s'applique à faire exactement ce qu'elle subit, elle, et lui montrer qu'en fait, ça fait pas mal. Ça me fait plaisir de voir qu'effectivement, elle s'est appropriée ce soin comme quelque chose qu'elle peut maîtriser. Donc ça rassure aussi les parents, c'est chouette.
Il y a les rayons qui commencent. Ça fait grrrr.
C'est le docteur Stéphanie Boll, l'oncologue radiothérapeute qui suit Louise, qui lui a fait la démonstration, ce qui lui a permis de se mettre à hauteur d'enfant.
Quand on leur parle, c'est parfois très abstrait, parler de la radiothérapie, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Donc le fait de passer par le jeu et de rentrer dans leur imaginaire permet de diminuer l'anxiété des enfants et d'avoir une meilleure adhérence au traitement.
Et on dit à tout doudou si ça s'est bien passé. Et il nous dit oui, et il peut repartir chez lui.
Une étude menée dans un autre hôpital de Mondoudou montre que le stress des enfants diminue de 7 à 2 sur une échelle de 10 grâce à cet outil.
Et c'est fini.
Deux demi-finales hispano-anglaises, Ligue des champions de football, Villarreal, ce sera contre Liverpool, qualification aussi hier de Manchester City qui sera opposé au Real Madrid. Enfin, Nicolas, comment expliquer le naufrage du Titanic il y a pile 110 ans aujourd'hui? C'est toujours un mystère.
Voilà.
Y a-t-il eu un incendie qui a fragilisé la coque, un retard dans les secours avec ce terrible bilan, 1500 morts? Et surtout, alors qu'il faisait beau, pourquoi la Vigie n'a-t-elle pas vu l'énorme iceberg? Prévisionniste et documentaliste de Météo France sont replongés dans les cartes météo de l'époque pour essayer d'y voir un peu plus clair et leurs recherches sont passionnantes, Sophie Bécherel.
Comme pour une enquête policière, les documentalistes de Météo France ont fouillé dans les cartes de courant, les relevés de vent, de température et il n'y a aucun doute, la météo était clémente la nuit du drame, confirme Marie-Hélène Pépin, chef du service de documentation de l'organisme.
Dans nos cartes météorologiques de l'époque, nous voyons que le Titanic est au centre d'un vaste anticyclone et qu'il fait très beau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de nuages, c'est un temps parfait.
Seule anomalie, un hiver anormalement doux.
Cet hiver-là, les icebergs se sont détachés très tôt de la banquise et sont descendus jusque sur la route du Titanic. Ils étaient déjà là en avril, alors que normalement, ils n'auraient pas dû y être.
L'iceberg n'a pas non plus été masqué par le brouillard. Il n'y en avait pas. Peut-être un mirage, alors. C'est désormais la piste privilégiée. Dans les régions polaires, quand la surface de l'eau très froide est en contact avec l'air plus chaud, cela peut générer une image au-dessus de la mer. Un bateau, un iceberg se retrouve en hauteur. Mais quand les objets sont trop loin, c'est la mer elle-même qui apparaît en mirage au-dessus de la ligne d'horizon. Xavier Poupineau, auteur du dossier à Météo France.
L'image de la mer, ça va faire quelque chose de brumeux. Ce n'est pas une brume, ce n'est pas un brouillard, mais ça fait une bande de mirage qui est brumeuse, qui aurait masqué aux guetteurs l'iceberg qu'ils n'ont vu qu'à à peu près 500 mètres. Et ça, c'est trop tard.
Lancé à 41 km par heure, le Titanic n'a pas eu le temps de dévier suffisamment sa route. Le choc avec l'iceberg lui a été fatal.
Et allez voir cette passionnante enquête sur franceinter.fr et le site de Météo France.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, 22e épisode. Aujourd'hui, la France d'Emmanuel Macron en Mayenne qui a plébiscité le président.